Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Bonjour mes amis et bon dimanche d'automne chocolaté. Pourquoi ? Parce que c'est le salon du chocolat à Paris qui se tient jusqu'à mercredi prochain, le 1er novembre. Alors évidemment, moi je ne rate pas cet événement, mais particulièrement cette année, puisque ma mère, Christiane Collange, nous a quittés la semaine dernière. C'était une dingue de chocolat. Aujourd'hui aurait été l'anniversaire de ses 93 ans. On aurait croulé sous le chocolat. Je serais revenu du salon chargé de paquets. Et je vais quand même me charger de paquets pour mes filles et parler de ce salon du chocolat qui est un vrai événement dans la gourmandise française avec les spécialistes, les stars du salon.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
En guise de star, eh bien, j'ai le président. Voilà, le président. Les Anglais se disent toujours, ça me fait rire d'ailleurs, les Français sont tous présidents de quelque chose, mais lui, il est président de la Confédération de la Chocolaterie, c'est Thierry Lallet qui est avec nous. Bonjour Thierry.
Bonjour Vincent.
Thierry, alors, évidemment, vous êtes chocolatier.
Oui.
Bon, hein, c'est assez important pour être le président de la Confédération. Vous êtes chocolatier bordelais.
Oui, hein, aussi.
Chez Saugnon, à Bordeaux. Alors moi, je ne suis pas très étonné de voir un bordelais à la tête de cette Confédération, parce que, il faut le dire, l'Aquitaine, pas la nouvelle, hein, pas celle du Nord, mais l'Aquitaine tradie, c'est une région chocolatière importante. On n'oublie pas que le chocolat est revenu d'Espagne, un peu grâce à l'infante d'Espagne et ce fameux mariage sur la Bidassoa avec Louis XIV. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Bayonne a été une vraie cité du chocolat et c'est remonté. Et Bordeaux était un port, évidemment, où rentraient les fèves.
Exactement. C'était un des ports principaux d'arrivée des fèves, comme était Bayonne, Bordeaux, Nantes. Mmh. Mais Bordeaux avait une vraie activité et il y avait une activité à l'époque, on pourrait dire industriel, aussi de la fève, puisqu'on avait des usines qui n'existent plus aujourd'hui, mais type Tobler avait une usine en fait à Bordeaux pour fabriquer
du
chocolat. Quoi,
faisait du Toblerone à Bordeaux ?
Alors Tobler faisait pas du Toblerone à l'époque.
Non mais faisait de la plaquette.
Avant. Mais c'était d'accord. Voilà, faisait de la plaquette et transformait la fève.
D'accord. Alors c'est intéressant parce que ce que vous dites des industries qui ont disparu, ça veut dire que est-ce que l'artisanat chocolatier a repris un petit peu le pouvoir en France ?
Je pense très honnêtement, oui, qu'aujourd'hui l'artisanat sur le chocolat et la confiserie a énormément augmenté, s'est amélioré à tout point de vue, parce que je pense très honnêtement que partout dans les villes de grande et moyenne taille, on trouve un chocolatier et un bon chocolatier. Donc on voit que l'artisanat et le savoir-faire du chocolat à la française, on va dire, c'est vraiment imposé aujourd'hui et c'est imposé à travers le monde. On le voit aussi par la formation, le nombre d'étrangers qui viennent se former au métier du chocolat et de la confiserie en France. Donc on peut être fier d'avoir ce savoir-faire que beaucoup de pays étrangers nous envient.
Alors comment vous êtes tombé là-dedans, vous, Thierry ? Comment est-ce que vous vous retrouvez président de cette confédération avec cette charge importante ?
Alors, ça faisait longtemps que j'étais au sein du bureau de la confédération et je m'occupais beaucoup de la formation. Et puis, les présidents se tournent. Ils se sont dit,
tiens lui, il a pas assez de trucs à faire, il a pas assez de boulot, on va le.
tu vas prendre le poste de président. Donc, il semblerait qu'il y ait eu un peu l'unanimité et que personne ne voulait prendre le poste sur ce mandat-là. Mmh. Donc, je me suis retrouvé en effet président. Mais j'ai un bureau, il y a des personnes qui travaillent avec moi, qui sont aussi des chocolatiers et des confiseurs, et puis on a une secrétaire générale, donc voilà, on a une équipe, on a beaucoup de travail, alors tout n'est pas visible, on va dire que le salon du chocolat c'est 1% de l'activité,
c'est la vitrine
de la confédération qui nous a permis aussi de créer et de relancer le meilleur apprenti de France, voilà, donc tout ça fait que ça c'est la partie visible, c'est notre vitrine, et puis derrière il y a énormément de travail, que ça soit avec l'éducation nationale, les partenaires sociaux, les choses comme ça, qui sont le quotidien en fait d'une confédération, mais qui a une incidence sur les entreprises de chocolaterie dans la France entière.
Bien sûr, mais l'artisanat, on est encore d'accord.
On reste sur l'artisanat, bien évidemment.
Parce que on va y revenir sur ce que c'est que le métier de chocolatier, surtout avec la mode du bean to bar, ça aussi on va en parler. Thierry Lallet, est-ce que c'est un métier d'abord chocolatier ? Parce que longtemps c'était une extension du métier de pâtissier. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un vrai métier à part entière ?
Alors, il y a en fait il y a deux options. Nous autrefois, on était en fait liquoriste et confiseur. Le chocolat n'existait pas dans nos maisons. Moi, j'ai pas de, on va dire, de rayon pâtisserie. C'est quand la partie, on va dire, liqueur a un peu disparu, que mes arrière-grand-tantes et arrière-grand-mères se sont mis un peu sur ce marché du chocolat qui commençait à peine à arriver.
À émerger, oui.
À émerger.
Ouais.
Et puis, il y a eu un boom dans les années fin 60, début 70.
Oui, après-guerre, en fait, chocolat a connu un nouvel essor.
Voilà, il est devenu un produit de consommation courante, on va dire.
D'abord industriel, et puis ensuite artisanal.
En effet, tu as raison Vincent, c'est qu'on est un métier, la plupart des métiers de l'industrie viennent de l'artisanat. Nous, c'est l'inverse. C'est l'industrie qui a permis de créer l'artisanat du chocolat. Et ça, on l'oublie. Donc, on s'est mis dans cette brèche du chocolat. Mon père est arrivé, on va dire, aussi dans l'essor du chocolat. Et après, en effet, aujourd'hui, vous avez aussi les pâtissiers qui, eux, se sont diversifiés. Et parce qu'ils utilisaient quand même le chocolat dans les gâteaux, hein, bien évidemment. Mmh. En fait, on a ce lien entre les pâtissiers et les chocolatiers confiseurs. Bah, c'est le chocolat.
Bien sûr. Parce que c'est un produit primordial. Dans le goût sucré en France, le chocolat, c'est très important.
C'est important parce qu'on peut jouer justement avec le chocolat réduire le sucre. Parce qu'il est incorporé déjà dans le chocolat. Donc d'abord, il est mieux assimilable pour le corps. Et surtout, sur les textures et les goûts et toutes les saveurs qu'il va développer. Et tu le sais très bien que tous les chocolats noirs ne se ressemblent pas.
Thierry, soyons clairs. Ça, c'est l'explication professionnelle. Mais la vérité, c'est que le chocolat, c'est un goût universel. Alors, c'est un goût qui plaît, je sais pas, comme la vanille, comme les frites, comme la tomate. Voilà.
C'est bien évidemment que quand on mange un carré de chocolat, ça suscite à la fois dans nos papilles, dans notre cerveau, plein de choses. Mais quand on commence à pousser un peu plus loin,
bien sûr.
Eh ben on s'aperçoit que un chocolat noir, eh ben il peut être différent parce qu'il va venir de notre endroit ou parce qu'il va être travaillé par quelqu'un différemment.
Bien sûr, il y a des gammes.
C'est ça. Et ce qui fait en fait la diversité de nos métiers.
Mais c'est régressif aussi. Mais c'est aussi un goût de l'enfance.
Mais
quoi.
Bien évidemment. Hein. Et en fait, c'est là le plaisir qu'on a en mangeant du chocolat. C'est là, on pourrait dire la Madeleine de Proust, mais c'est exactement ça. On mange un carré de chocolat, ça nous rappelle des souvenirs. Enfin, et on le voit avec les clients quand ils nous disent ah oui. Moi, je me rappelle, ma grand-mère mettait dans une boîte en fer en haut du buffet, on prenait la chaise pour lui prendre un petit chocolat, des choses comme ça. Ou il découvrait les chocolats à l'alcool, parce qu'à Noël, il y avait ces chocolats souvent avec de l'alcool.
Bien sûr.
Voilà, c'est plein de souvenirs. Aujourd'hui.
Non, excusez-moi, vas-y. Chocolatier est devenu un métier à part entière ?
C'est un métier à part entière, complètement.
C'est reconnu comme tel dans l'artisanat. C'est-à-dire qu'on est chocolatier, pâtissier chocolatier ou confiseur chocolatier.
Alors, on est confiseur chocolatier parce qu'on utilise des techniques pour faire un praliné, ça reste du domaine de la confiserie. Si on fait un pot de pâte de fruits.
Quand on dit confiseur, ça veut dire cuisson du sucre.
C'est
l'utilisation du sucre.
Voilà, c'est ça. C'est tout ce qui va être la cuisson du sucre. Or, pour faire un bon praliné, il faut savoir cuire un sucre, l'amener au caramel sans le brûler, torréfier ses fruits.
Il y a encore beaucoup d'artisans qui font leur praliné eux-mêmes ou ils achètent à des gros faiseurs.
Non, très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il y a pareil, il y a une volonté de traçabilité et de vérité vis-à-vis du client. Et je pense qu'on a un retour chez beaucoup, beaucoup d'artisans à maîtriser tous les gestes de fabrication.
Ça me fait plaisir.
Non, mais c'est
moi
vrai.
Que je suis dingue du praliné et qui ai trouvé longtemps, pendant presque 20 ans, qu'on avait toujours le même goût de praliné parce qu'on l'achetait à des industriels artisanaux. Là, au moins, vous êtes en train de me dire qu'on fait le nut tout praliné comme on fait le bean to bar aujourd'hui.
Exactement. Je pense. Non, mais c'est vrai. Et tant mieux. Et ça permet aussi, en effet, que vous alliez chez deux chocolatiers différents, vous allez avoir un praliné qui sera différent. Et puis, cette main, le fait de faire sa cuisson de sucre, d'utiliser ses noisettes ou ses amandes, va aussi donner une typicité, parce que certains vont garder la peau des fruits secs, d'autres non.
Allez, on va se quitter quelques poignées de secondes et se retrouver avec des camarades à vous, que vous connaissez bien, parce que là aussi, c'est les vedettes du salon. J'ai invité ici Vincent Guerlet et Arnaud Larrère. On va parler de ce que c'est que la diversification de la pâtisserie en matière de chocolaterie. À tout de suite.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Le salon du chocolat est ouvert à Paris depuis hier et il se prolonge jusqu'à mercredi 1er novembre au soir. Vous avez le temps d'aller faire même des achats pour Noël. Hein. J'en connais qui stockent parce que l'avantage du chocolat, c'est que ça se conserve bien. En tout cas, un mois et demi, ça c'est sans aucun problème si c'est pas trop au chaud. Mais en ce moment, il fait pas trop chaud, alors ça tombe bien. J'étais avec Thierry Lallet qui est toujours avec nous en studio, le président de la Confédération des chocolatiers et confiseur, chocolatier, confiseur et...
C'est tout.
C'est tout. C'est
juste de France.
Hein,
de et France, tu rajoutes de France, et on est bon.
De France et on est pas mal. Et il a été rejoint à l'instant par Vincent Guerlet. Bonjour Vincent Guerlet.
Bonjour Vincent.
Chocolatier nantais et également président de Relais Dessert International. On va en parler dans un instant. Un de ses membres éminents parisiens, mais venu de Bretagne, Arnaud Larrère. Bonjour Arnaud Larrère.
Bonjour Vincent.
Meilleur ouvrier de France également dans la pâtisserie, lui. Mais bon, la chocolaterie, c'est jamais très loin non plus. On sait ce qu'on va expliquer là pendant cette émission. Pourquoi est-ce qu'il y a cette collusion? On le voit bien sur le salon du chocolat. Alors messieurs, on parlait avec Thierry du fait que la pâtisserie était un métier, ça on le sait, artisanal. La chocolaterie est devenue un métier, alors que souvent c'était une diversification, ou alors ça rentrait dans le grand panier des produits sucrés. Aujourd'hui, c'est un métier à part entière. Alors, vous, Vincent Guerlet, vous définissez comme chocolatier avant tout ?
Oui, comme chocolatier, mais pâtissier aussi. Moi, j'ai fait une formation à la base de pâtissier, et puis je suis venu à la chocolaterie, comme beaucoup d'entre nous, souvent. Et c'est vrai que la chocolaterie est un métier différent. Mmh. Hein, moi, j'ai souvent l'habitude de dire que quand j'ai commencé la chocolaterie, je faisais des chocolats de pâtissier. Mmh. Et puis après, petit à petit, j'ai appris à faire des chocolats de chocolatier.
Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier, puisqu'on le citait tout à l'heure, on prenait l'exemple de Bordeaux et évidemment de l'Aquitaine, dire que Nantes, c'était aussi un grand port, enfin Nantes et Saint-Nazaire, une grande fenêtre de la fève de cacao qui rentrait en France. C'est important, hein. Lorsqu'on est intéressé à la matière première, hein, quand on fait son sourcing, comme on dit, il faut aller chercher la fève là où elle se trouve.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on avait les bateaux qui venaient avec du cacao, avec du rhum, avec du sucre à l'époque. Et puis voilà, c'est pour ça que toute la région, on va dire atlantique, était
favorisé un petit peu pour le cacao. Ouais, pour l'importation. Arnaud Larrère, aujourd'hui, ça a bien changé. Hein. Tous ceux qui font du chocolat vont maintenant voyager dans le monde. C'est tous des gringos, hein, les chocolatiers. Non, mais c'est vrai. Hein. Bon, ouais. Alors, ils achètent largement quand même sur les marchés européens, mais ils ont quand même cette tendance à aller vers les pays producteurs, s'intéresser aux produits de base.
Bah oui, c'est une chance. Quand on a démarré le métier, on recevait le chocolat, mais on ne savait pas vraiment comment il était fait au départ, comment était faite la culture. Et grâce à nos métiers, on a pu voyager, comme Vincent, aller dans différents pays, que ce soit au Cameroun, mais aussi au Brésil, pour voir un peu comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est enrichissant déjà, parce que ça permet de voir les choses. Et en plus, on s'est aperçu aussi que quand on arrive là-bas, les gens ne connaissent pas le chocolat. Mmh. Donc on leur a fait... c'est ça.
Ouais, ils connaissent le cacao, ouais. Mais le produit final, le bout de la chaîne, ils ne connaissent pas.
Donc on leur a fait goûter du chocolat.
On en parlera tout à l'heure, ouais. On recevra Daniel Mercier, le président de l'association des chocolatiers engagés. Voilà. Mais ça, pour l'instant, moi ce que je veux, c'est aller au cœur du salon, Thierry Lallet. Alors, ouais. Ce salon du chocolat, d'abord, est-ce que c'est un événement important? Alors, il l'est pour le public. Est-ce que c'est un événement important pour la profession?
Oui, c'est un événement très important pour la profession parce qu'en fait, il réunit une grande partie des professionnels. On pourrait dire que c'est la grande messe du chocolat.
Alors, je veux pas faire le chagrin, hein, mais on voit qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné aussi le salon du chocolat. Il y a des grands chocolatiers, je pense à Jean-Paul Évin, qui était un historique, par exemple, de ce salon. Ils n'y viennent plus.
Oui, alors après, c'est des choix. Je pense que, voilà, peut-être que... Enfin, c'est aussi des nouvelles générations qui arrivent.
Ouais,
il y a des piliers forts et qui sont sur ton plateau, d'ailleurs, aujourd'hui.
Oui, Vincent Guerlet. Vincent, qui est là, Arnaud, ils sont plantés dans les pieds.
Et puis il y en a de passage qui tentent, et puis il y en a qui par des problèmes d'organisation. Mais n'empêche que même si t'as pas de stand, tu les vois passer. Ils viennent. Mmh. Ils viennent. C'est un moyen aussi de se revoir parce qu'on est tous. C'est la famille. On a tous la tête dans le guidon. On n'a pas forcément.
Non, dans la tempéreuse.
Ou dans la tempéreuse. et on ressort chocolat. voilà. Donc ça reste un événement. Et il est, au-delà de l'événement national, il est international. Mmh. Dans le sens où on voit à la fois des consommateurs, mais des clients, des choses du monde entier qui viennent pour cet événement-là. Mmh. Donc c'est vrai que, très honnêtement, je ne connais pas d'autres salons autour du chocolat qui réunissent autant de personnes et de diversification.
Il y en a des régionaux, il y a celui de Lyon, à Bastia, des salons de chocolat partout
bien
en France.
Bien sûr qu'il y a des salons du chocolat partout,
mais celui de Paris
a ce côté un peu féerique aussi, parce qu'il y a toutes ces animations. Le fameux défilé de robes en chocolat. La première fois que ça a été lancé au salon du chocolat.
On attend tous que ça fonde pour voir les filles qui sont en dessous. Hein. C'est un peu ça l'histoire, non ? Non, je plaisante bien entendu. Vincent Guerlet.
On va avoir des soucis.
Votre association, les Relais Desserts International, c'est une association qui regroupe des pâtissiers et des chocolatiers. C'est un peu, moi j'ai envie de dire souvent, un peu le haut du panier. En tout cas, vous vous cooptez entre vous pour avoir vraiment une qualité qui soit vraiment optimale. Quelle est l'importance du chocolat par rapport à la pâtisserie ? Autant de chocolatiers que de pâtissiers dans l'association ?
Oui, aujourd'hui, à la base, c'était une association de pâtissiers, les Relais Desserts, qui était historiquement la Motte d'Or, donc Motte d'Or pour le beurre.
C'est pour ça que le Nantais s'y intéressait depuis longtemps.
Aujourd'hui, parmi tous les membres des desserts, tout le monde fait du chocolat. Je connais pas un seul membre qui n'a pas une activité chocolat dans son entreprise.
Ce que vous dites, c'est que ça n'aurait pas de sens pour un pâtissier aujourd'hui d'écarter le chocolat.
Bien sûr.
Pourquoi ?
Parce que le chocolat, comme tu disais tout à l'heure, historiquement, il y avait quelques chocolatiers dans des grandes villes, mais le chocolat était un produit qui était très peu accessible au grand public. Il y avait une certaine élite qui pouvait trouver ce chocolat.
Ou alors de l'industriel, mais qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait.
Et puis après, on avait le chocolat à Pâques dans la boulangerie locale. Et puis, et puis petit à petit, la pâtisserie, puisqu'on est quand même sur des métiers similaires et on va dire, on est cousins très proches.
Connexes,
se sont mis à faire du chocolat de plus en plus. Et puis, il y a eu de la demande de plus en plus forte aussi. Parce qu'aujourd'hui, on vend du chocolat toute l'année, même l'été. Mmh. Hein, nous, on est ouvert toute l'année et on vend très bien du chocolat au mois de juillet comme au mois d'août.
Ah bah oui, ça, il n'y a plus de saison pour le chocolat. Hein.
Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Relais Desserts, c'est également la pâtisserie et la chocolaterie ensemble.
C'est très bien. Arnaud Larère, est-ce que ça fait sens ? Parce que moi, je comprends le point de vue du Nantais, du Bordelais, de venir au Salon de Paris. C'est un peu la vitrine de son activité. Mais quand on a des boutiques à Paris, est-ce que ça vaut quand même le coup de venir au Saint-Louis Chocolat ?
Ah bah oui, comme on disait déjà pour voir les copains, voir aussi les gens de la profession.
Non, c'est un peu comme le salon d'agriculture, toute proportion gardée, on monte au salon et puis le soir on se retrouve, on boit un coup ensemble, enfin ça permet
de commercial, parler. Mais c'est bien sûr que c'est une opération commerciale, c'est important, et puis ça fait la promotion du chocolat, mais c'est aussi bien d'échanger avec des gens du métier, parce que ça nous permet aussi de grandir, de voir aussi ce que chacun fait.
Et puis tous les deux ans, il y a des concours. Tous les deux ans, il y a des concours.
Ouais, tous les deux ans, il y a des concours. Donc, ça fait aussi venir aussi des gens qui ont peut-être envie de rentrer dans le métier, parce qu'il y a aussi des jeunes, des futurs apprentis, ou des fois des parents qui viennent nous parler pour savoir un peu comment se passe le métier. Donc, c'est aussi un lieu très convivial et d'échange. Et le fait qu'on soit à Paris, ça génère beaucoup de monde. Donc, pour nous, c'est important.
Vous, sur le sein du chocolat, votre stand, quelle est la part que vous laissez à la pâtisserie versus le chocolat, le bonbon de chocolat, comme on dit, ou la tablette de chocolat, c'est-à-dire le pur chocolat ?
Ce qu'on vend le plus sur le stand, c'est comme les boîtes de bonbons chocolat, parce que même si je suis de Paris, tout le monde ne me connaît pas à Paris.
Tout le monde ne monte pas à Montmartre.
Voilà, tout le monde monte pas à Montmartre, donc on a aussi besoin de se faire connaître. Et donc c'est vrai que les gens, on leur explique que quand ils ont besoin de, enfin de, s'ils veulent vraiment connaître la maison, un peu comme tous les chocolatiers, c'est de prendre un coffret assorti, ça vous permet de connaître un peu les signatures chocolat de la maison.
Parlons un petit peu technique, Vincent Guerlet. On l'a dit, c'est deux métiers différents. On a besoin d'un matériel. Hein, quand on fait de la chocolaterie, c'est pas le labo de pâtisserie. Donc ça veut dire il faut de la place, il faut du matériel, il faut des machines, hein, parce que la découpe, l'emballage, etc. C'est un investissement quand même.
Oui, oui, c'est un investissement. C'est vrai qu'on va pas travailler le chocolat dans le même environnement avec où on fait les croissants juste à côté. Ça c'est pas possible. On a des températures à respecter, des taux d'hygrométrie également. Donc le laboratoire
chocolat. Parce qu'on le disait, l'eau est l'ennemi du chocolat.
Ah oui, totalement.
Hein, donc là un jour pluvieux comme celui-ci à Paris, on va pouvoir les manger à l'intérieur. Va bien falloir les emballer pour ceux qui partiront avec. Hein.
Voilà. Mais c'est vrai que oui, ça demande de. Mais hormis déjà, sans parler des locaux et du matériel, c'est déjà aussi un savoir-faire qui est aussi différent. On travaille les mêmes ingrédients, hein, principalement la crème, du sucre, le chocolat, comme on peut le faire en pâtisserie. Sauf que là, on est sur un produit qui va rester à température ambiante pendant un temps donné, comme tu le disais tout à l'heure. Donc là, on travaille sur vraiment une autre technique, sur l'activité de l'eau, sur savoir comment on va pouvoir conserver ces produits normalement qui se conservent au froid.
Qui ne sont pas recuits, qui ne sont pas passés au-dessus de 100 degrés.
C'est ça. Et puis, donc, c'est avec l'enrobage. Enfin, c'est toutes ces techniques de chocolatier qui fait qu'on arrive à faire des chocolats qui soient bons, moelleux et qui se gardent quand même un minimum de temps pour la dégustation.
On va continuer à parler de cette activité de chocolatier et de la formation, c'est très important avec Thierry Lallet, on va y revenir. Hein, parce que si vous voulez être chocolatier, eh bien, il y a un petit parcours du combattant quand même à mener, mais pour le meilleur, hein, bien entendu. Allez, on se retrouve dans quelques poignées de minutes.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fernio fait le marché.
Toujours avec les pointures du chocolat, ici dans le labo de Sud Radio, un labo de chocolatier, bien entendu, puisqu'on parle du salon du chocolat qui se déroule à Paris jusqu'à mercredi et dans lequel vous venez extrêmement nombreux, hein, ça ne se dément pas d'année en année, évidemment, comme si on avait une appétence, comme si ça libérait des inhibitions, en fait, en quelque sorte. Thierry Lallet, qui est le président de la Confédération, on dirait que tout est permis au salon du chocolat. Je vois des gens repartir avec des quantités de chocolat hallucinants.
Je pense qu'il y en a qui font leur consommation annuelle en un week-end. Là. C'est vrai que c'est hallucinant, mais c'est bien, ça montre bien l'engouement pour cette matière.
Mais c'est la transgression aussi. On dit on y vient, on y est, on goûte tout, on y va, quoi.
Oui, on se fait plaisir. Et puis, c'est vrai que tous ceux qui sont présents par leur stand, ça donne envie. Et le chocolat, avant de le déguster, de le mettre en bouche, on le voit avec les yeux. Et il y a quand même, qu'on le veuille ou non, un effort de présentation.
Bien sûr. C'est beau, c'est très beau.
C'est beau. Et donc, ça donne envie. Et c'est le but. Le client, il achète comment son chocolat? D'abord avec ses yeux. C'est sûr qu'il a envie de goûter, mais si c'est attractif, si le packaging, si sans trop de packaging, mais dès que le produit est visuel, qu'il est brillant, qu'il a ce côté gourmand, les gens foncent dessus, quoi. Donc,
J'ai l'impression, oui, on peut le dire.
On peut dire qu'hier, ils ont foncé dedans.
Il n'y a qu'à voir les allées du Salon du Chocolat. Vincent Guerlet, donc président de l'association Relais Desserts International, est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie chocolatière, un peu comme l'industrie biscuitière, talonne l'artisanat. Je veux dire, en termes de qualité, est-ce qu'il y a un gap qui a tendance à se réduire entre les deux ?
Alors, il y a différentes choses. L'industrie travaille beaucoup sur la tablette. Voilà. Donc après, là, on est sur vraiment une question de goût. Qu'est-ce qu'on va apporter? C'est à nous d'aller chercher peut-être des choses beaucoup plus précises avec des micro-lots dans des plantations.
Des origines, des
choses où on va ressortir un goût que l'industrie ne
ou
peut pas avoir.
Ou même ce qui rentre dans la tablette aussi. Les différents fruits,
toutes ces choses-là. L'industrie nous regarde, en fait. On voit l'évolution des tablettes depuis 10 ans. L'industrie a de plus en plus essaye de se rapprocher. Après, tout ce qui est bonbons de chocolat, là, on a, on va dire, une véritable avance, mais technique, de façon technique. Pourquoi ? Parce qu'un industriel va fabriquer ses chocolats de Noël à partir du mois de juin, peut-être, voire même avant. Nous, les chocolats de Noël vont être faits vraiment parce qu'on a une texture, parce que plus un chocolat, quand vous le mangez, un praliné, une ganache, va être moelleuse, va être fondante, eh bien c'est parce qu'il y a un équilibre entre l'eau qui est contenue dans la matière grasse, dans la crème, et le chocolat qui fait qu'on a ce fondant. Si vous voulez des chocolats qui se conservent très longtemps, alors déjà, on peut mettre des conservateurs, on est d'accord, ce qui n'est pas dans l'artisanat, mais aussi, il va falloir mettre beaucoup plus de matière sèche que de matière humide pour la conservation. Donc, eh bien, on va avoir un chocolat qui va être totalement différent de ce qu'on peut trouver chez un artisan chocolatier. Donc, dans ce côté-là, il faut...
Et même dans une tablette.
Et même dans une tablette de chocolat.
C'est vraiment très parlant entre une bonne tablette industrielle et...
Aujourd'hui, tu as des très bonnes tablettes industrielles qui commencent à avoir... Mais on reste sur la tablette.
Oui, d'accord. Voilà. Parce que dès qu'on parle bonbons de chocolat, c'est autre chose. Alors, d'ailleurs, on le disait, Arnaud Larrère, le travail du chocolatier, outre la conservation, c'est évidemment l'expression des arômes. Hein, des arômes à la fois du chocolat et des intrants, que ça peut être du praliné, des ganaches avec des fruits, etc. Donc c'est un travail de juxtaposition de saveurs, c'est un travail de cuisine, enfin j'ai envie de dire de cuisine au sens large.
C'est un travail de créativité et de précision. Comme disait Vincent, la colonne vertébrale, c'est aussi que le produit se garde pendant un mois, qu'il ne s'abîme pas.
À température.
Température ambiante.
Oui. Voilà. Excusez-moi, je vais dire un gros mot. Est-ce que les chocolats sont surgelés avant de les servir, ou est-ce que c'est un produit qui reste frais tempéré?
Oui, frais tempéré chez moi.
Frais tempéré, ouais. Ça dépend. On peut, il y a les deux semaines.
Les deux, il y a différentes techniques, bien sûr.
Thierry Lallier, on sait qu'aujourd'hui, excusez-moi, tous les pâtissiers surgèlent. Enfin, il y a plus de pâtisserie fraîche, pas ça, à la marge. Mais en tout cas, la surgélation permet de figer le goût au moment où ça a été fait et de le resservir dans les meilleures conditions. Et c'est pareil pour le chocolat ?
Oui, alors en fait, le chocolat, c'est des choix de chaque entreprise. Tu peux utiliser en effet la congélation pour conserver tes chocolats, parce que ta production est à un moment dans l'année,
parce qu'elle
entre
anticipée.
Noël, qu'elle est anticipée, et que tu sais qu'il y a une forte demande et que tu n'as pas forcément la main d'œuvre pour produire. Mais aussi, tu peux, il y a d'autres techniques, fabriquer au fur et à mesure, suivant. En fait, c'est un peu libre à chacun.
En flux tendu,
En flux tendu. Mais le consommateur le comprendra aussi que chez l'artisan, eh ben, si tu arrives le 24 décembre, tu n'es pas forcément le panel de bonbons de chocolat parce qu'il fait de son mieux,
mais
c'est
bien
pareil
sûr.
Dans les gâteaux.
Voilà. Bien sûr, on ne va pas engager une équipe 10 fois supérieure au moment des fêtes, donc on travaille avec les mêmes personnes que l'année.
Après, la congélation ou surgélation, qu'elle soit en pâtisserie ou en chocolaterie, n'est pas négative.
C'est pas
péjoratif. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être un moyen de conservation pour répondre à un moment donné dans son process de fabrication. Mais voilà,
c'est une technique.
Exactement.
Si la matière première est bonne, si ce qu'on met dedans est bonne, c'est comme la conserve. Au résultat, c'est bon. Hein, c'est le produit qui fait la différence.
La congélation va pas améliorer ton produit. Elle va juste l'arrêter de vivre pendant un temps pour qu'il dure dans le temps.
Absolument.
C'est tout. Maintenant, si au départ, c'est pas bon, ça restera pas bon,
pas
en fait. Mais si c'est pas bon sans le congeler, ça sera non plus pas bon. Tu vois,
donc, on est bien d'accord.
Donc, on en revient toujours à ces histoires de sourcing, d'aller chercher les bons ingrédients et de mettre en œuvre des recettes équilibrées qui permettent de sortir un bon chocolat comme un bon gâteau.
Thierry Lallet, je vais changer de sujet parce que on va recevoir, je le vois arriver à la bord des studios, Daniel Mercier, pour parler un petit peu d'engagement en chocolaterie. Ça existe aussi et c'est même important. Un mot sur la formation.
Oui.
Parce que beaucoup de jeunes qui passent par, moi je vois beaucoup d'enfants évidemment, au Salon du Chocolat, c'est une vitrine extraordinaire, notamment pour le métier. Comment on se forme à être chocolatier? Est-ce qu'il faut passer par un CAP de pâtisserie ou est-ce qu'on va directement à la chocolaterie?
Aujourd'hui, on a le choix. C'est vrai que pendant très très longtemps, encore même si c'est la majorité, souvent la première formation, c'est le CAP de pâtissier. Et puis, ils peuvent faire soit en un an un CAP de chocolatier, mais on a de plus en plus de jeunes qui arrivent directement en CAP chocolatier et qui vont spécialiser après soit vont rester en chocolaterie, vont faire un brevet technique des métiers en chocolaterie, ou vont repartir vers la pâtisserie sur un brevet technique aussi de pâtisserie. Le salon est aussi un moyen d'expliquer les formations qu'on a dans nos deux métiers. C'est aussi pour ça que la Confédération des pâtissiers et la Confédération des chocolatiers se sont unis en fait sur le salon du chocolat pour pouvoir répondre à la demande de tous les jeunes. Hier, on a remis le titre du meilleur apprenti de France chocolatier sur le salon du chocolat. C'est une jeune fille qui a gagné devant 10 autres candidats.
Vous vous souvenez de son nom ?
Oui, Justine Guéné.
Oui.
Voilà. Qui était
bravo
très
Justine.
Fière.
Ah ben on peut. Hein.
Voilà. Oui, bien évidemment que les professionnels qui sont sur leur stand répondent aussi à la demande des jeunes qui veulent savoir parce que c'est tellement attractif de voir tous ces produits que, bah oui, ça donne envie d'aller dans ce métier.
Vous avez des demandes, Vincent Gerlet, sur le salon de gens qui spontanément font acte de candidature?
Oui, bien sûr, on a des demandes, on a des CV, on a des demandes de gens qui disent, tiens, voilà, justement, l'accès ici nous leur permet de dire, tiens, on aimerait bien, on voudrait faire une formation chocolaterie directement. Où
bah vous avez de la chance parce que vous êtes de la descendance. Hein.
Oui.
Et dans la maison. Hein.
Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un métier attractif. Parce les métiers du sucré sont attractifs. Ah bah, et puis, avec une évolution.
C'est mieux conducteur de bus. Hein. J'ai rien contre les conducteurs de bus, mais enfin, ça fait plus rêver. Quoi.
Depuis de nombreuses années maintenant, une amélioration aussi des conditions de travail. Aujourd'hui, les gens qui viennent travailler chez nous ont des horaires. Nous, on est depuis 5 ans en semaine de 4 jours et ça se passe très bien. Et donc, on a nos personnels qui a des week-ends récurrents.
Ça redevient possible.
C'est une organisation qui, aujourd'hui, c'est adapté sur les mêmes bases que tout autre métier. Donc ça ouvre aussi des perspectives. On a de plus en plus, nous, dans nos labos, de personnel féminin, parce qu'en fait, on est sur des organisations aujourd'hui, le métier de chocolatier et de pâtissier est ouvert à...
Elles sont souvent plus attentives, délicates, on va dire avec un œil... Non, mais c'est vrai,
elles ont un autre regard. Mais par contre, je trouve que cette mixité dans les laboratoires est très importante aussi. Parce qu'en fait, moi, je le vois pas en tant que, tiens, c'est... Non, c'est un ensemble. Ouais. Et puis, les uns font avancer les autres. Et je trouve que ce mélange et cette complexité, justement, personnel féminin, personnel masculin, est un avantage pour notre métier.
Et puis, on le voit dans tous les groupes humains, sans faire de stéréotypes de genre, dès qu'il y a une femme au milieu des hommes, elle les calme. Il y a un côté, on se tient un petit peu mieux devant les femmes qu'entre mecs. Hein. C'est valable dans tous les corps de métier.
Chez moi, ma chef chocolatière,
ouais,
Clara.
Ouais.
Et elle a fait aussi une robe en chocolat pour le salon.
Ouais.
J'ai pas eu besoin de l'assister. Je veux dire, la robe en chocolat, elle a fait toute seule.
J'espère, dites donc si c'est votre chef.
C'est surtout qu'il y a aussi son côté féminin qui. Ce qui fait que par rapport à un chocolatier qui m'aurait peut-être demandé certaines choses. Elle l'a fait toute seule et elle l'a très bien faite.
C'est génial. Moi, je suis ravi de voir les chocolatières parce qu'il y en a évidemment beaucoup de talents et notamment des patronnes aussi.
De plus en plus.
Sur le salon. À Bordeaux, vous avez Asna.
Au sein de Chocolatiers Engagés, il y en a une aussi en région bordelaise. Tu vois, on voit vraiment une féminisation du métier et c'est tant mieux. Mais on le voyait arriver parce que déjà, il y a 10 ans, peut-être, 10 ans, on voyait arriver en formation de plus en plus de jeunes filles. Donc, 10 ans, elles sont formées au moins 2 à 4 ans. Et puis, elles sont tournées dans des maisons. Et voilà, donc au bout de 10 ans, elles commencent à s'installer. On en voit de plus en plus et c'est très, très, très bien.
Et vous allez voir, dans 2 ans, ça ne sera pas ce studio d'hommes que nous aurons. elles auront pris la place de tous ces messieurs et ce sera très, très bien pour la profession, vous le savez. Allez, on va se retrouver dans une minute pour parler d'engagement, justement. On y était. On était sur un engagement féministe et dans le bon sens du terme. Et on va parler des chocolatiers engagés avec Daniel Mercier qui va nous rejoindre parce que ça, c'est une association qui ne s'occupe pas que des chocolatiers, mais aussi des planteurs, parce qu'on les oublie un petit peu dans la tablette.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Toujours en direct ce matin pour parler du Salon du Chocolat qui se tient à Paris avec les vedettes. Hein. Les vedettes, c'est les chocolatiers, on s'en doute, mais pas seulement leur préparation, leur merveille que l'on trouve dans leur stand aussi. Alors, mes amis, ce matin, ça a commencé déjà à fighter à coups de chocolat. Ils se balancent des palais, ils se balancent des petits napolitains, des madeleines qui volent dans le studio. Mais c'est bien, c'est l'ambiance du salon aussi. Absolument. Vous ne saviez pas que c'était l'ambiance du salon, mais vous n'avez qu'à aller voir, parce que hier, ça, je peux vous dire que dans les allées, c'était pas triste, hein, et surtout après les fermetures. Mais enfin, moi, je n'ai rien dit. Allez, ce matin, Thierry Lallet est avec nous. C'est le président de la Confédération des chocolatiers et confiseurs, hein, ouais, parce que c'est le même métier. Vincent Guerlet, chocolatier à Nantes, chocolatier pâtissier à Nantes, et surtout président de Relais Dessert International, qui est une belle association, vice-président aujourd'hui.
Pierre Hermé.
Ah oui, je connais. Oui, c'est pour être sûr. Et en face de lui, Arnaud Larère, meilleur ouvrier de France, pâtissier, mais chocolatier également, est présent sur le Salon du Chocolat cette année. Et nous a rejoint en studio un homme engagé, figurez-vous. Chocolatier de métier, Daniel Mercier. Bonjour Daniel.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, je vous ai fait venir, Daniel, parce que vous aussi, évidemment, vous êtes un chocolatier émérite. Et pour autant, vous êtes dit à un moment de votre vie... on ne peut pas laisser de côté la production de cacao. Très longtemps, on a un peu fermé les yeux sur l'origine, hein, c'est-à-dire sur les planteurs. Et il y a eu une tension sur le marché énorme. À un moment, tout le monde s'en est ému en disant « on va peut-être plus avoir de cacao ». Et tout d'un coup, les gens se sont rendus compte que faudrait peut-être pas étrangler les planteurs comme on le fait parfois avec nos paysans en France.
Moi, j'aime raconter que mon grand-père, en 1912, fabriquait du chocolat. Mmh. C'était du noir ou du lait, mais il savait pas d'où ça venait. Mmh. Papa a travaillé le chocolat. C'était du 65, du 70%, mais il savait pas
quel était. C'est comme si on faisait du vin rouge ou du vin blanc, sans rien dire de plus.
Il connaissait pas la provenance. Nous, maintenant, moi, il y a 20 ans, j'entends, on va manquer de cacao si les Chinois se mettent à manger du chocolat. On va manquer de cacao dans le monde. Donc, quand t'es chocolatier, moi, je suis chocolatier pur. C'est ta matière première, donc clairement tu peux pas t'en passer. Donc on a acquis des premières terres au Mexique, on a monté une ferme là-bas. Et là mes enfants m'ont dit c'est bien, baba, on a notre ferme, on a notre approvisionnement, mais on fait quoi pour les planteurs? Et c'est là où, au sein de la Confédération, avec Thierry, avec quelques autres copains.
Oui, à l'origine c'est la Confédération qui a été un peu le.
Nous sommes tous élus de la Confédération. Moi je suis le vice-président de Monsieur Thierry Lallet.
Mmh. Et je suis son vice-président pour chocolatier engagé, par contre.
Ouais. Ah ben, ça sent le népotisme.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
C'est pas le temps de la maison.
Et là, on s'est dit comment est-ce qu'on peut créer une aspérité pour les chocolatiers et comment est-ce qu'on peut faire pour aider les planteurs et comprendre leurs problématiques que le circuit court. Ce que disait Arnaud tout à l'heure, on peut plus ignorer les planteurs. Et là, nous sommes rendus dans différents pays, dont le Cameroun. Et là, on a rencontré des planteurs. On s'est rendu compte que ces gens vivaient une véritable misère. C'est-à-dire, ils touchaient moins d'un dollar le kilo. Là où nous, on vend nos chocolats, près de 100 euros le kilo. Vous l'avez vu hier au Salon du Chocolat. Mmh. Moins d'1% de la valeur est perçue par les planteurs. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est en gros 2 à 3 intermédiaires qui achètent 70% et 80% du cacao dans le monde. Si je vous cite par exemple Olam, vous ne connaissez pas, mais c'est un des plus gros acteurs du cacao dans le monde. Le deuxième, c'est Cargill, que le grand public ne connaît pas non plus.
Ah, Cargill, on connaît, hein, parce qu'ils ne font pas que du chocolat. Hein.
Voilà, mais ce sont les grands acteurs de l'importation.
C'est ça.
Et donc, on ne connaît pas la traçabilité, on n'a aucune traçabilité là-dessus, sur la provenance du cacao. Donc nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut rapprocher les chocolatiers des planteurs? Donc c'est là où le travail s'est effectué sur le terrain.
Mais Daniel, les grands acheteurs que vous citez, ils travaillent aussi pour des grands faiseurs.
Bien sûr.
C'est eux qui vont fournir Nestlé, c'est eux qui vont fournir Mars, qui vont fournir les grands groupes.
Bien sûr, évidemment. Évidemment. Non mais attendez, moi je veux pas créer de conflit entre l'industrie et l'artisanat. Ce que disait Vincent tout à l'heure, l'industrie a très fortement progressé. C'est de mieux en mieux. Sauf que nous, à un moment donné, on se dit le cours du cacao ne nous intéresse pas. C'est le prix de revient du cacao nous intéresse. Récemment, on a fait une conférence de presse au Cameroun. Les journalistes là-bas nous disent « Mais vous êtes tombé amoureux du Cameroun, des Camerounais, des choses comme ça. » Non, non. Les Camerounais sont plus heureux à Yaoundé que Porte de la Chapelle à Paris. C'est pas politiquement correct de dire ça. Mais quand on parle d'immigration, les gens veulent juste vivre dignement de leur métier. Donc qu'est-ce que nous avons fait, Chocolatier Engagé ? Nous sommes intéressés aux prix de revient. Quelles étaient les façons culturelles ? Quels sont les prix de revient ? Les prix de revient, par exemple, si je prends le Cameroun, sur une ferme dont le modèle économique doit être de 3 hectares, c'est le modèle rentable, avec une production moyenne de 800 kilos par hectare, le prix de revient est de 950 francs CFA, 1,30€ à peu près. Or, les cours jusqu'à maintenant étaient entre 600 et 700 francs CFA, c'est-à-dire 70 à 80 centimes le kilo.
Vous êtes en train de dire qu'on paume du blé sur chaque kilo de cacao.
Ils paument du blé, mais il y en a d'autres. En France, c'est pas mieux pour, pour certains de nos agriculteurs.
Non, bien sûr, mais ils ont des aides ici.
Ici, ils ont des aides. Là-bas, ils n'en ont pas.
Il n'y a rien.
Ce qui explique que 85% des planteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté ou au seuil de pauvreté. Est-ce que c'est tolérable ? Est-ce que c'est acceptable ?
Évidemment.
Est-ce que c'est durable ? Eh bien, nous avons dit non. C'est pas durable.
C'est bien de dire non. Pour autant, vous me parlez du Cameroun. Le grand pays producteur, ça reste la Côte d'Ivoire.
Ça reste la Côte d'Ivoire et le Ghana. 65%.
C'est-à-dire vraiment l'Afrique de l'Ouest, sur l'Atlantique. Est-ce que eux aussi, vous travaillez chez eux ?
Alors, on est en train de. Attendez, si vous voulez, je été engagé. L'idée, ça a été de mettre les fondements. Donc, Vincent, Thierry, Arnaud sont venus là-bas. Moi, je repars la semaine prochaine.
Vous les avez emmenés tous les trois là au Cameroun ?
Faut bien les emmener.
Il faut montrer. Hein.
Non, parce que ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a 10 ans, 99% des chocolatiers n'avaient jamais vu un champ de cacao. Et dans le même temps, 99% des planteurs de cacao n'ont jamais mangé un carré de chocolat. Donc le décalage n'est pas que chez les planteurs, était aussi chez les chocolatiers.
C'est carrément un schisme.
Donc
il y a un rift entre le
donc
producteur de cacao et le
chocolatier. C'est important de montrer... de montrer les plantations, d'expliquer comment est-ce que c'est produit et d'emmener justement les chocolatiers pour qu'ils prennent conscience de cela et de leur dire, ben voilà. Donc on a démarré par le Cameroun, parce que c'était ça ta question, Vincent. On a démarré par le Cameroun, on a exploré également avec une autre bande qui ne sont pas autour de cette table aujourd'hui, mais des Alain Chartier, des Pierre Mirgalet que tu dois connaître.
Alors Alain Chartier, glacier en Bretagne,
voilà,
Pierre
mais
Mirgalet,
qui fait aussi du chocolat.
Ex-président de la Confédération des pâtissiers, qui est lui aussi un Aquitain.
Et donc, nous sommes allés au Libéria, nous avons fait aussi une exploration au Togo, au Bénin, en Bolivie, en Colombie, en République Dominicaine. Donc,
vous avez encore
engagé.
Le temps de faire du chocolat, vous, au milieu de tout ça ?
Absolument.
Au milieu de vos voyages ?
Absolument.
Je vous le demande parce que vous parlez de tellement de pays, vous passez la moitié de l'année sur le...
Je suis 4 à 5 mois par an sur les plantations de cacao, en tant que bénévole, bien évidemment, mais c'est essentiel pour aller chercher justement ce cacao. J'ai la chance d'avoir une très très belle brigade avec moi, mon fils également et ma fille qui sont, moi aussi j'ai une belle descendance donc qui assure les choses et j'ai surtout la chance d'avoir une compagne qui est très tolérante avec moi.
Merci Hélène. Merci à elle. Thierry Lallet, moi je me pose une question à écouter ce que nous dit Daniel Mercier. Moi, je connais la réponse, mais j'ai le sentiment à avoir vu comment les gens achètent, qu'ils sont de plus en plus sensibles évidemment à un comportement éthique des chocolatiers. Ils sont de plus en plus sensibles, évidemment, à la sauvegarde de la planète, donc savoir comment est le cacao derrière le chocolat, mais surtout comment on traite les planteurs.
Oui, il y a une prise de conscience. En fait, cette prise de conscience, elle est générale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui s'est créé. Il est venu aussi des professionnels parce qu'on faisait la traçabilité de nos noisettes, de nos amandes. On racontait des belles histoires sur les producteurs avec lesquels on travaillait sur les amandes. Pourquoi le chocolat, on pouvait pas le mettre ? Et tout ça, à force de l'exposer en fait aux clients, à un moment, il fallait bien aussi qu'on justifie notre chocolat parce qu'ils entendaient « Ah, ben ça y est, le chocolat, c'est pas bon pour la planète. »
On fait travailler les enfants,
les choses comme ça. Donc, il a fallu aussi prendre nous, en tant que professionnels, le problème à bras-le-corps et à un moment c'est pas suffisant d'avoir un beau dialogue, il faut pouvoir le justifier. Et avec Chocolatier Engagé et des partenaires comme les Relais Desserts et d'autres professionnels ou la Confédération des Pâtissiers, des choses comme ça, c'est de se dire attention, maintenant on veut du chocolat, mais on veut que ce chocolat, on puisse justifier que...
Qu'on n'en ait pas honte, quoi.
Qu'on n'en ait pas honte, en fait, et qu'on se dise pas...
Qu'on a tué des populations pour plaire à notre Occident, quoi.
Je vois aussi avec toutes les initiatives qu'on fait dans l'artisanat, justement, comme tu dis, d'avoir le sourcing sur les produits, les fruits secs, les fruits, les purées.
Vous voulez dire, Arnaud Larère, qu'il faudrait être aussi pâtissier engagé, il faudrait être aussi cuisinier engagé?
Non, mais ce que je vois, c'est, comme Vincent disait tout à l'heure, c'est que derrière les industriels, ça les secoue un petit peu aussi.
Ouais.
Parce qu'avant, comme disait, c'était une plaque chocolat noir, lait, choisissez votre couleur et terminé. Nous, on secoue un peu le panier et on voit que derrière, les industriels commencent maintenant à avoir aussi des...
Bah parce que c'est la demande du public.
Ouais. Voilà, et donc, ce qu'il faut voir, c'est que nous, chocolatiers, on est petite goutte dans cet océan. Donc, en fait, le problème, il faut lancer l'alerte pour que derrière, la grosse majorité du chocolat qui est acheté dans le monde par l'industrie suive aussi ces critères qui vont pouvoir amener à une quiétude et quelque chose de mieux pour les planteurs et les plantations.
Oui, ça serait pas mal, oui, Thierry Lallet.
Juste cette petite goutte, en fait, comme dit Vincent, au Cameroun, ça a été un raz-de-marée. Pour le Cameroun, pour les planteurs...
Pour le Cameroun, ça a changé la situation.
Ah, mais ça a complètement changé la situation.
Bien sûr, le cacao du Cameroun, jusqu'à maintenant, était décoté sur la place internationale par rapport au cacao du Ghana, par exemple, qui subissait une surcote.
Pourquoi ? Parce qu'il y avait une antériorité du Ghana
parce que
et de la
c'était
Côte d'Ivoire.
C'est un cacao de bulk qui n'avait aucune réputation.
De quoi ?
De bulk, c'est-à-dire pour faire de l'assemblage, pour faire du tout venant, faire des M&M's.
C'est comme la
tablette la moins chère du marché.
C'est comme la vanille rouge de Madagascar par rapport à la noire fondue.
Et en fait, depuis
le produit industriel.
Depuis le 2 juillet de cette année, le cacao du Cameroun est devenu et a été classé flying favor, donc dans les 5%.
Et c'est grâce à vous, ça.
Des meilleurs cacaos du monde. C'est pas forcément grâce à nous, mais
c'est un ensemble.
Parce que on a parlé du cacao du Cameroun, parce qu'on a dit que on était d'accord de payer le cacao plus cher, de doubler le prix du cacao à condition qu'il subisse un traitement post-récolte. Bien séché, bien fermenté, voilà.
Ça permet d'élever
le niveau.
Voilà, si vous voulez apporter votre savoir ou même vos subsides à l'association des chocolatiers engagés, ça doit être faisable, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amis de l'association. Hein. On n'est pas obligé d'être un professionnel de la chocolaterie.
Exactement.
Les professionnels, ils étaient ici avec vous ce matin. Thierry Lallet, merci encore.
Merci,
président
Vincent.
De la Confédération. Vincent Garlet, président relais des Dessert International.
Vincent.
Arnaud Larère, chocolatier pâtissier, meilleur ouvrier de France. Et Daniel Mercier, le président des chocolatiers engagés.
Merci,
vous avez vu,
Vincent.
Un beau studio.
Président.
On n'a pas osé encore taper dans la tablette, mais ça va venir, hein, croyez-moi, parce qu'ils ne sont pas venus les mains vides et ils ne savent pas faire, les chocolatiers. Voilà, mes amis, vous avez jusqu'à mercredi soir pour visiter le Salon du Chocolat à la Porte de Versailles à Paris. Et si vous étiez déjà au moment de l'émission, pas de souci, vous pourrez écouter tout cela en podcast sur notre site sudradio.fr. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouvez, comme d'habitude, Alexandre Devecchio en toute vérité. Je sais qu'il aime le chocolat, Alexandre Devecchio. Je vais regarder un petit ballotin, tiens. Je vous souhaite un beau dimanche chocolaté sur Sud Radio.